Radio Livre, une émission de Radio BLB. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle émission de Radio Livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'amour absolu. J'espère que ce sera une histoire qui vous fera du bien en cette période de reconfinement. Alors, c'est une histoire qui est extraite d'un livre de Victor Hugo, que je ne vais pas vous présenter. C'est un livre qui n'est pas des plus connus, quoique. Son titre est « Les travailleurs de la mer ». Je vous laisse juger de cette histoire. Le héros du livre, Gilliatt, habite la paroisse de Saint-Sanson, sur l'île de Guernesey. Il avait pour logis une maison visionnée. C'est une maison où le diable vient la nuit. Au XIXe siècle, les croyances étaient très présentes, si je puis dire. Donc la réputation de Gilliatt était à la mesure de cette situation. De plus, à 30 ans, il en paraissait 45 et les filles le trouvaient laid. Pourtant, il ne buvait pas, ne fumait pas, ne chiquait pas. Mais Victor Hugo remarque que être sobre, ce n'est qu'une qualité que lorsqu'on en a d'autres. Tout cela avait rendu Gilliatt un peu sauvage. Dans son village de Saint-Sanson vivait Mess de Thierry, un notable. Il avait le cœur sur la main, une large main et un grand cœur. Il avait deux amours, Déruchette, une nièce qu'il avait recueillie, adoptée, et, d'autre part, Durande, un bateau qui assurait la liaison Guernesey-Saint-Malo. Il avait reçu une éducation stricte, était passé par tous les métiers de la marine, mais, pour raison de santé, était devenu armateur. Il était un peu sauvage également, mais comme le précise Victor Hugo, avec des élégances. Déruchette, Victor Hugo résume sa description comme suit. Un oiseau qui a pris la forme d'une fille, quoi de plus exquis. Gilliatt n'avait pas parlé à Déruchette. Il la connaissait pour l'avoir vue de loin. Un matin de Noël, Gilliatt avait rencontré Déruchette sur un chemin. Déruchette s'était laissée aller à un enfantillage. Elle était très jeune. Elle avait écrit le nom de Gilliatt sur la neige. Gilliatt rentra chez lui, ne sachant plus pourquoi il était sorti. Donc, dans un état émotionnel, on devine lequel. L'histoire est longue. Il y a même plusieurs histoires dans ce roman. Mais restons sur celle de Gilliatt. Nous allons le retrouver après vous avoir dit qu'un jour de mauvais temps, cumulé avec la trahison d'un homme de confiance, de Mess Lethierry, Clubin, pourtant auréolé d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon, fit que la Durande s'est échouée sur des récifs à quelques milles de l'île. Ce naufrage, c'est la ruine de Mess-le-Thierry. Le renflouement du bateau semble impossible. Miss Lethierry ne sait plus à quel saint se vouer et, en désespoir de cause, va jusqu'à promettre la main de sa nièce Déruchette à qui accomplira ce miracle. Gilliatt se rend alors sur le lieu du naufrage et, au prix de plusieurs semaines de labeur titanesque, ramène la Durande au port de Saint-Sanson. À son retour, le hasard fait que Gilliatt surprend une conversation entre Déruchette et le révérend Ebenezer Coudray, qui avait été affecté à la paroisse de Saint-Sanson en remplacement du révérend Jacquemin Hérode, quelques semaines avant le naufrage. Aucun doute, Déruchette et le révérend Coudray s'aimaient intensément. Et que pensez-vous que Gilliatt fit? Gilliatt s'occupe de toutes les formalités en rusant auprès de Mess Lethierry, de qui il a reçu l'autorisation de préparer le mariage de sa nièce comme il lui convenait. Il lui écrit cette autorisation. Gilliatt l'utilise auprès du doyen qui unit Déruchette et le révérend. Gilliatt les accompagne au bateau qui va les emmener en Angleterre. Voici ce qui s'ensuivit. À la sortie de l'église, ils virent le cachemire qui commençait à appareiller. « Vous êtes à temps, » dit Gilliette. Ils reprirent le sentier du Havelet. Ils allaient devant, Gilliette maintenant marchait derrière. En quelques minutes, ils furent au Havelet. Ebenezer entra le premier dans le bateau au moment où Déruchette allait le suivre. Elle eut la sensation de sa manche doucement retenue. C'était Gilliatt qui avait posé un doigt sur un pli de sa robe. « Madame, » dit-il, « vous ne vous attendiez pas à partir. J'ai pensé que vous auriez pu peut-être avoir besoin des robes, de robes et de linge. Vous trouverez à bord du bateau un coffre qui contient des objets pour femme. Ce coffre me vient de ma mère. Il était destiné à la femme que j'épouserai. Permettez-moi de vous l'offrir. » Déruchette se réveilla à demi de son rêve. Elle se tourna vers Gilliatt. Gilliatt, d'une voix basse et qu'on entendait à peine, continua. « Maintenant, ce n'est pas pour vous retarder, mais voyez-vous, madame, je crois qu'il faut que je vous explique. Le jour qu'il y a eu ce malheur, vous étiez assise dans la salle basse. Vous avez dit une parole. Vous ne vous souvenez pas. C'est tout simple. On n'est pas forcé de se souvenir de tous les mots qu'on dit. Seulement, ce que je voulais vous dire, c'est que, comme on disait, personne n'ira, j'y suis allé. Il disait, c'était impossible. Ce n'était pas cela qui était impossible. Je vous remercie de m'écouter un petit instant. Vous comprenez, madame, si je suis allé là, ce n'était pas pour vous offenser. D'ailleurs, la chose date de très loin. Je sais que vous êtes pressé. Si vous avez le temps, si on parlait, on se souviendrait, mais cela ne sert à rien. La chose remonte à un jour où il y avait de la neige. Et puis, une fois que je passais, j'ai cru que vous aviez souri. C'est comme ça que ça s'explique. Quant à hier, je n'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Je sortais du travail. J'étais tout déchiré de vous avoir fait peur. Vous êtes trouvé mal. J'ai eu tort. On n'arrive pas ainsi chez les personnes. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Vous allez partir. Vous aurez beau temps. Le vent est à l'est. Adieu, madame. Vous trouvez juste que je vous parle un peu, n'est-ce pas ? Ceci est une dernière minute. Je pense à ce coffre, répondit Déruchette. Mais pourquoi ne le gardez-vous pas pour votre femme quand vous vous marierez ? Madame, dit Gilliatt, je ne me marierai probablement pas. Ce sera dommage, car vous êtes bon. Et Déruchette sourit. Gilliatt lui rendit ce sourire. Puis il aida Déruchette à entrer dans le canot. Moins d'un quart d'heure après, le bateau où était Ebenezer et Déruchette abordaient en rade de Cachemire. Gilliatt suivit le bord de l'eau, passa rapidement dans Saint-Pierre-de-Port, puis se remit à marcher vers Sanson, le long de la mer, se dérobant aux rencontres, évitant les routes pleines de passants par sa faute. De temps en temps, il se retournait et regardait en arrière de lui, dans la rade. Le Cachemire qui venait de mettre la voile, il y avait peu de vent, Gilliatt allait plus vite que le Cachemire. Le flux commençait à monter. À un certain moment, il s'arrêta et tourna le dos à la mer. Il considéra pendant quelques minutes, au-delà des rochers, cachant la route de Val, un bouquet de chênes. C'étaient les chênes du lieu-dit les Basses Maisons. Là, autrefois, sous ces arbres, le doigt de Déruchette avait écrit son nom, Gilliatt, sur la neige. Il poursuivit son chemin. Il s'enfonça dans les ruelles. Il se dirigea vers sa maison. Sa maison était telle qu'il l'avait laissée le matin, après s'être habillé pour aller à l'église pour la cérémonie. La clé était à la porte. Gilliatt approcha, posa la main sur cette clé, ferma la porte à double tour, mit la clé dans sa poche et s'éloigna. Et voilà la fin de l'extrait, donc. Vous pouvez vous demander ce qui s'en suivit. Gilliatt est-il vraiment le personnage un peu sauvage annoncé au début de cette émission ? Et Gilliatt, que devient-il ? Gilliatt ne rentre pas chez lui. Il se dirige vers le gros obélisque de granit, debout au milieu de la mer, appelé la chaise, Gilholm Ur en breton, ou dans la langue de Guernesey. Sur ce rocher-là même, où il avait sauvé le révérend Ebenezer de la noyade. Le révérend s'était endormi sur ce rocher qui, du fait de la marée montante, était encerclé par la mer. Noyade assurée sans le secours de Gilliatt. Donc Gilliatt se dirige vers ce rocher, s'y assoit et regarde le bateau qui transporte Déruchette et le révérend. À l'instant où le navire s'efface de l'horizon, la tête de Gilliatt disparaît sous l'eau. Il n'y a plus rien que la mer. C'est du Victor Hugo, sans aucun doute. Et je vais faire le lien avec Søren Kierkegaard, qui a voué un amour absolu à sa femme Bolette Rørdam, avant de s'en séparer parce qu'il l'aimait trop. Et son histoire ressemble à celle de Gilliatt, mais également à celle d'un conte d'Andersen. Mais avant de vous laisser le soin d'en juger, écoutons une parenthèse de Georges Brassens.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent, il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Et comme tous les contes, ça commence par « Il était une fois ». Donc, il était une fois une créature des mers qui séduisait les jeunes filles au regard perdu dans les miroitements de l'eau. Ce triton magnifique, aux écailles scintillantes, les charmait en ondulant sous la surface des flots pour les ravir au rivage et les engloutir à tout jamais dans les abîmes de l'océan. Un jour qu'il s'était ainsi emparé de la belle Agnès, alors qu'elle s'abandonnait corps et âme dans ses bras, et qu'il était sur le point de l'entraîner vers son funeste destin, il fut à son tour troublé par le regard amoureux, plein de naïveté, de désir et d'absolue confiance de la jeune fille. Le cœur étreint, vaincu par ses yeux purs, le triton se figea et le mouvement des vagues avec lui. Comment dès lors pouvait-il briser cette innocente qui venait de faire naître en lui le sentiment inconnu de l'amour? Lui n'était qu'un triton. Puisque la séduire était l'anéantir, puisque lui avouer sa nature de démon était aussi risqué de lui faire perdre la raison, puisque enfin cet amour n'était ni plus ni moins qu'impossible, il la ramena à son monde et la déposa sur le sable avec tout son cœur, son désespoir. Son amour abandonné par amour, perdu car éperdu. Puis le triton se précipita dans l'océan mugissant, seul mais comme déchiré en deux, en miettes, mais immense de cet incroyable sacrifice. Et le sel de ses larmes se mêla au sel de la mer et les cris de son cœur se mêlèrent aux hurlements des flots. J'ai coulé au fin fond des eaux et tout est devenu noir devant mes yeux, mais je m'en émerge à nouveau, écrit Søren Kierkegaard, qui ne trouvait personne à qui se comparer, si ce n'est à un triton, parce que sa propre vie se déroula dans les profondeurs secrètes de l'âme. Tout comme le monstre des mers, inspiré du conte d'Andersen, Kierkegaard abandonna sa belle Régine, soleil des femmes, sur les rivages du monde visible, en dépit de son infini amour. Voilà le lien que je fais entre ces deux textes. Et pour terminer cette chronique de Radio-Livre, je vais vous faire une citation de Stendhal, issue de la vie de Henri Brûlard. « L'amour a toujours pour moi été la plus grande des affaires, ou plutôt la seule. » En cette période de crise sanitaire, écologique, sociale, le plus grand réconfort, c'est l'amour. N'est-il pas? Au mois prochain, et prenez soin de vous. Radio Livre, une émission de Radio BLV.